Je retourne à la maison d'artistes Incarnato, lieu d'exposition et de résidence artistique dirigée par Anne-Lise Salmon. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Mathilde.
Aujourd'hui, tu vas nous dire qui est en résidence en ce moment à la maison Incarnato et tu vas nous présenter un peu le festival qui aura lieu en mars.
Exactement. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir actuellement Jean-Marc Barrier, qui est le deuxième auteur que l'on accueille et que l'on retrouvera également au mois de mars dans le cadre du festival Les Incarnés, Vivre le Poétique. C'est un festival qui se déroulera au mois de mars parce que c'est le Printemps des Poètes, une manifestation nationale où l'on retrouvera un croisement entre des textes poétiques. Donc il y aura plusieurs auteurs d'invités, également des maisons d'édition, mais croisé avec des photographes. Et donc, il y aura également des photographes d'invités et toute une programmation autour de différents événements.
Qu'on peut retrouver, du coup, sur votre site ?
Alors, pas tout de suite, mais d'ici le mois de décembre, je pense qu'en effet, la programmation va être mise en ligne petit à petit.
Merci beaucoup, Anne-Lise.
Mais il n'y a pas de quoi. Merci à toi.
Je rencontre donc Jean-Marc Barrier, qui est avec nous aujourd'hui. Vous êtes poète, peintre, graphiste, dessinateur, mais aussi photographe. Vous fabriquez des objets graphiques, vous menez des ateliers d'écriture et vous co-animez aussi une émission mensuelle, Les Arpenteurs Poétiques, sur Radio Pays d'Hérault. Comment vous définiriez votre pratique artistique et quel est votre parcours en fait ?
Alors, définir ma pratique artistique, c'est très instinctif, je pense. C'est l'instinct d'abord, après il y a une mise en forme ou une mise en mots, une traduction par la pensée des choses, mais je suis vraiment le travail d'atelier, ce qui vient, voilà, je vais vers mon naturel, ma spontanéité. Donc actuellement, c'est la peinture, j'ai repris la peinture dès que je l'ai pu, donc en prenant ma retraite. Et je suis comme un jeune peintre et je suis allé vers l'encre parce que c'est très essentiel, élémentaire en quelque sorte. Et j'avais très envie du corps vivant dans l'acte de peindre en fait. Après des années de graphisme et de photographie, j'avais besoin de retrouver mon corps vivant.
Le premier médium artistique, c'était la peinture alors ?
C'était la peinture à l'huile sur toile quand j'étais jeune, oui. Et quand j'ai pris ma retraite, je pensais refaire de la peinture à l'huile, j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai senti que c'était pas ça. Je pensais reprendre au point là où je l'avais laissé, mais non, c'était autre chose qu'il me fallait.
La photo, le dessin, la peinture, l'écriture, qu'est-ce que ça permet pour vous, cette pluralité d'expression ?
Ça permet d'être dans le mouvement de la vie, parce que je pense que c'est la vie qui active l'envie de peindre ou d'écrire. Je suis pas de ceux qui écrivent tous les jours à heure fixe. Je pense que c'est parfois la vie qui m'amène à avoir très envie d'écrire, soit pour déposer, soit pour transformer quelque chose. Et donc là, il y a des jours où c'est la peinture, c'est évident, et d'autres jours, c'est l'écriture. Écrire, on peut le faire partout. Il n'y a pas de matériel à transporter. Et c'est très libre. Et c'est sans doute l'activité où je me sens le plus libre. Dans la peinture aussi, je me sens libre. C'est plus exploratoire. Non, l'écriture aussi, c'est exploratoire. Mais vraiment, dans l'écriture, peut-être qu'il y a plus de moi nu, authentique dans l'écriture.
Vous vous rapprochez peut-être plus de votre intérieur. Ça permet d'exprimer des choses que vous exprimeriez différemment avec l'encre, avec la peinture.
Disons que la peinture, ça reste un spectacle extérieur, tandis que l'écriture, c'est vraiment nourri d'une traversée de l'intérieur, j'allais dire. C'est très aventureux, c'est un peu joueur. Donc j'adore, quand je me mets à écrire, ne pas savoir ce qui va venir. Et Marguerite Duras dit « J'écris pour savoir ce que j'écrirais si j'écrivais ». Et c'est un peu ça. C'est aller vers l'inconnu de soi, un peu.
L'exposition que vous présentez ici à la Galerie Incarnato comporte des œuvres de plusieurs séries, les Virgas, les Pluies intérieures, l'Esprit de l'île et aussi des textes poétiques qui s'incarnent dans des œuvres objets, les poèmes lames.
Les lames poèmes.
Les lames poèmes. Les lames poèmes.
Poèmes lames, c'est pas mal aussi.
Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'un lame poème ?
En fait, c'est un poème qui est imprimé sur une lame qui est tenue dans un stabile, lui-même renforcé par un galet de la rivière près de chez moi. Et sur cette lame, je fais une encre originale. En fait, c'est né d'une demande de mes amis qui disaient « quand tu exposes des encres, on a tellement envie de voir tes textes aussi, parce que ça circule bien entre les textes et les encres ». Donc j'ai cherché une sorte d'objet où le texte pouvait se mettre à vivre au milieu de l'exposition. Et ce sont des sortes de solifleurs poétiques, j'allais dire, des sortes de petits stabiles où les lames s'insèrent et on peut changer de lame quand on change d'humeur. Voilà.
Par rapport au terme Virgare, du coup, qui est un des pôles de l'exposition, c'est un terme donc météorologique qui désigne des traînées de précipitations qui s'étend sous un nuage mais qui n'atteint jamais le sol. Quel parallèle faites-vous entre ce phénomène et le geste artistique ?
Alors, j'ai découvert les Virgas dans le sud en voyant le ciel, simplement des ces rideaux de pluie qui tombent mais qui s'évanouissent au-dessus de la terre.
Qu'on ne ressent pas donc physiquement.
Oui, c'est ça. On voit la pluie tomber, mais elle n'arrive pas en fait. Et j'ai découvert le mot après. Alors, c'est vraiment la découverte du mot qui veut dire vierge en fait, qui m'a déclenché l'écriture. Et pour répondre à votre question, je voyais une image des émotions immenses qu'on a dans la poitrine, mais qu'on n'est pas sûr de pouvoir mettre jusqu'au papier, c'est-à-dire pouvoir partager. Donc, c'était une image de l'ineffable un peu. Un autre volant des choses, c'est qu'à l'époque, j'avais une situation de frustration. Personnel. J'y ai vu une image de la soif, de la frustration, du désir et de la frustration et de la sublimation. Et du coup, bon, c'était un angle, un biais pour parler un peu de mon expérience de vie et pour l'élever, pour la transformer. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est d'écrire un texte assez joueur avec beaucoup de surprises de mots. C'est pas une longue plainte en fait, mais c'est une méditation et qui essaye de s'approcher de l'ineffable ou de l'impartageable aussi en même temps. Voilà.
Vous êtes ici en résidence en tant qu'auteur, mais l'exposition offre une variété d'œuvres qui ne se limite pas seulement à l'écriture, puisque l'espace il est occupé par des encres que vous avez réalisées. Certaines sont bleues, d'autres noires. Donc les bleues, c'est les plus récentes que vous avez réalisées sur une île, il me semble.
C'est ça, oui. J'ai fait une résidence d'artiste sur l'île Vrac, qui est au large de la Baie Vrac, dans le Finistère. Donc c'est une île où il y a juste un phare, et j'habitais le phare pendant 2 semaines, donc j'étais seul sur l'île. Donc c'était une très belle expérience. Et là, j'avais envie de faire des encres bleues, mais c'est venu d'avant la résidence dans l'île. C'était un voyage en Grèce, il y a 1 an et demi, où j'ai marché à pied dans les îles grecques. Et où là, c'est cet univers bleu qui est à la fois très monochrome, mais en même temps où il se passe 1000 événements visuels par le vent, les courants, etc., qui m'habitaient. Et je cherchais la traduction de cette émotion devant cette immensité bleue, en fait.
Justement, il y a du coup ces encres bleues qui sont plutôt pleines, qui remplissent un peu le papier, alors que j'ai l'impression que les encres noires, elles sont presque jetées. Il y en a qui sont dispersées, il y en a qui sont peut-être des formes plus arrondies, des formes peut-être plus travaillées. Est-ce que, avant de noircir justement le papier, vous avez déjà une idée de la forme des encres qu'elles vont prendre ?
Alors ça, c'est intéressant que vous me posiez cette question, parce que j'ai 2 sortes d'encre en fait. Il y en a où il y a une intention, c'est-à-dire par exemple les pluies intérieures, c'est une série qui parle des émotions qui nous traversent. Là, par exemple, j'avais une intention de verticalité, comme une pluie d'encre en quelque sorte. Et il y en a d'autres où je fais le vide avant et où je ne veux pas savoir et je ne veux pas vouloir en fait. Et c'est plus difficile de faire le vide. Et donc je me jette sur le papier comme une danse en fait, sans savoir ce que je vais faire. Donc là, c'est vraiment une recherche de l'instinct premier. Et donc, il y en a effectivement des noirs qui sont comme ça.
À l'aide de quel instrument, justement, vous jetez ces encres ou vous les posez ?
J'ai un gros pinceau chinois. Enfin, j'en ai plusieurs, mais vraiment gros, quoi. Il faut à peu près 8 cm de diamètre.
Sur ces encres, il y a aussi un autre élément qui apparaît. C'est le fil de coton. C'est la broderie qui donne du relief, justement, à ces encres. Quelle différence faites-vous entre justement cette temporalité de l'encre et de la broderie ? Comment vous les mettez en relation, ces 2 éléments ?
Alors moi, j'ai toujours bien aimé dans la vie réunir plutôt qu'opposer. Mais ce qui est venu dans le travail d'atelier, c'est-à-dire broder les encres, ça m'a saisi parce que j'ai trouvé que sur la feuille, il y avait à la fois le temps immédiat et sauvage de l'encre, de ce qui échappe un peu de nous, et le temps méditatif très lent et très calme. Et je trouvais que la méditation se musclait de l'élan du geste et que l'élan du geste se prolongeait d'une temporalité lente de la broderie. Donc ça m'a beaucoup plu. Et sur le papier, ces 2 temporalités font vivre le papier comme une peau, un peu. Parce que je brode un peu ton sur ton, c'est-à-dire j'aime bien broder blanc sur blanc, par exemple, et le relief apparaît un peu comme un gaufrage ou comme une scarification un peu du papier, noir sur noir aussi, ou parfois du rouge sur noir. Donc j'aime assez que l'image devienne objet, soit assumée comme objet de peau et objet d'espace, parce que j'aime ce que je cherche beaucoup dans mes encres, vous l'avez peut-être vu, c'est une sensation d'espace et de dilatation et de tension dynamique dans l'espace.
Quand vous dessinez ou quand vous peignez ou quand vous réalisez ces encres ou même quand vous brodez, vous parlez de la méditation, d'un espace de rêverie peut-être. Est-ce que pour vous, ça pourrait être comparé à la marche, par exemple? Est-ce que ce serait un moyen pour vous de vous évader, de prendre peut-être aussi de la distance avec les mots à ce moment-là?
Oui, peut-être que c'est quand les mots disparaissent que le dessin arrive. D'ailleurs, quand je voyage, je fais des croquis de voyage et j'aime bien parce qu'il y a une magie, il y a du dessin qui fait que les gens s'approchent et qu'on a un échange muet mais véritable autour juste du fait que je suis au milieu de leur territoire, que je m'imprègne de ce territoire, que je suis à l'écoute et que finalement ça crée un lien muet entre nous. Donc j'aime assez ça. Mais moi, c'est vrai que quand je brode les encres, c'est un peu comme la marche, c'est-à-dire que j'oublie le temps, je suis complètement dans ce que je fais et je suis bien en fait dans mon mouvement. Mais par contre, quand je fais l'encre, il y a un côté immédiat avec une concentration des contractions extrêmes dans l'instant qui fait qu'au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure de travail, je suis exsangue. Ça m'a complètement mangé toute mon énergie. Donc là, ce serait plutôt un sprint dans ce cas-là et pas une marche.
Pour revenir justement à l'écriture, vous avez publié un recueil en juillet dernier qui s'intitule La nuit élastique aux éditions Floem. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce recueil dont vous allez ensuite, pour finir, nous lire un extrait?
Oui, ce recueil, il a une chose un peu spéciale. C'est mon 7e livre, mais c'est le premier où il n'y a que du texte. Et je voulais un texte nu. Et puis, c'est aussi le premier peut-être où je plonge un peu dans le sombre, parce que j'ai toujours tendance à vouloir mettre de la lumière dans l'ombre. Et là, à la faveur d'un événement de vie, j'ai vraiment voulu traverser cette part sombre de l'être. Évidemment, qu'est-ce que j'y ai trouvé? Ben, c'est un sursaut de l'être qui veut aller vers ce qui est bon, ce qui est chaud, ce qui est la vie. Donc, c'est le récit d'une mue, en quelque sorte. J'aime bien dans l'image de la mue... Le serpent, par exemple, il doit accepter d'être faible, presque aveugle, de s'exposer aux prédateurs pour perdre sa vieille peau, mais c'est pour avoir une peau nouvelle qui lui va mieux. Et je voyais la nuit comme cet espace où les contours se dissolvent un peu, les choses deviennent un peu floues, mais où on va à la recherche de soi, de notre mouvement profond. Et quand on se réveille, quand l'éveil vient et que tout reprend sa place, en fait, il y a quelque chose qui a changé. Parce qu'on a dû aller contacter notre instinct de vie. Voilà, ça parle un peu de ça.
Vous convoquez des images, la mue du serpent. Vous avez aussi réalisé du coup des photos que vous avez mis en relation avec des textes que vous avez écrits. J'aimerais juste, avant que vous nous lisiez votre poème, parler de ce rapport entre texte et image. Est-ce que c'est l'image qui est première, qui donne un élan à l'écriture? Comment s'articule cette relation entre l'image et le texte qui lui donne des indices? Est-ce que l'image donne des indices au texte ou est-ce que c'est le texte qui donne des indices à l'image?
Alors j'ai vécu les deux situations. Mais le plus souvent, c'est l'image qui est première, qui effectivement donne une entrée pour l'écriture. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est pas être dans le commentaire de l'image, ni de redire ce que l'image dit, c'est d'apporter autre chose qui vient jouer avec l'image. J'ai coutume de dire que c'est un peu comme dans une vallée. Il y a un versant et l'autre, mais l'important, c'est la rivière qui coule au milieu. C'est le rebond entre le texte et puis l'image. C'est ça qui m'intéresse.
Pour finir, vous allez nous lire, Jean-Marc Barrier, un de vos poèmes, extrait donc de votre recueil La nuit élastique.
Je vais en lire deux, parce que un qui va dans le sombre au début, où ça chahute un peu, et un autre plus pacifié, celui qui est à la fin.
On vous écoute.
J'étais l'aile du corbeau, j'étais l'accident. Là où le rocher imite le rocher qui imite le silence, je penchais dans les brumes, antérieur pour toujours, essoré debout, j'attends encore l'aiguille du jour, les démentis du lac. Le froid ment, même la frontière est chaude, et je tiens sur l'eau, et je tiens sur l'air, et le temps revient, rien ne renonce. Je serai rouge, rouge encore, je soulèverai ma robe, et la rive sera mienne. Et le dernier poème du livre. Un mât sépare le ciel en deux. En moi, le bleu se divise. Son bruit d'eau calme sans les pierres, ligne à ligne avec la main. Le temps faceille. Une page que le vent frôle, le grincement d'une poulie, un fanal, et le bleu labile de l'eau où tout s'amenuise. Mes poumons sont dans l'arbre, paix de l'air et du sang. voir, par ses yeux voir même l'ombre oubliée et ce monde soudain blanchi derrière la vitre sale. Je tourne l'air en ma faveur.
Merci beaucoup, Jean-Marc Barrier.
Merci à vous.